La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume. Si notre pays était plongé dans le chaos, alors ce serait la guerre. Après 90 jours de manifestations et presque autant de morts, le président vénézuélien Nicolas Maduro, cible de tous les mécontentements, a tenu à rappeler hier à tous ceux qui pouvaient encore en douter qu'il n'abandonnerait jamais, quitte donc à prendre les armes si son gouvernement venait à être renversé. Quelques heures plus tard, signe que cet avertissement était surtout celui d'un homme acculé, une attaque à la grenade était menée depuis un hélicoptère contre le siège du tribunal suprême de justice. Une attaque aussitôt qualifiée par le chef de l'État de terroriste et destinée selon lui à provoquer un putsch. Ce matin, à la une de toute la presse vénézuélienne, des photos montrent l'appareil survolant la capitale et affichant une banderole sur laquelle est écrit 350 libertas en référence à l'article de la Constitution autorisant la déchéance du gouvernement. Sur les images, on distingue deux pilotes, dont l'un à visage découvert. Selon Nicolas Maduro lui-même, il s'agirait là du pilote de son ex-ministre de l'Intérieur et de la Justice. Un général à la retraite qui l'accuse de fomenter un coup d'État à son encontre. Enfin, précise El Nacional, le président qui soupçonne par ailleurs les dirigeants de l'opposition de s'être allié avec Washington pour le renverser, s'est directement adressé hier au président Donald Trump pour lui demander d'arrêter cette folie. Des menaces qui ne semblent guère émouvoir en revanche la presse américaine qui, à l'instar du New York Times, prend acte du renoncement de la majorité républicaine du Sénat à voter cette semaine la réforme du système de santé. En raison de fortes divisions internes, un nouveau revers donc dans la saga de l'abrogation d'Obamacare, mais aussi un échec cuisant qui vient balayer en seulement 24 heures la demi-victoire que la Cour suprême avait offerte la veille à la Maison-Blanche en remettant partiellement en vigueur son décret anti-immigration pourtant très controversé. Preuve là aussi des difficultés de la présidence Trump, cette enquête d'un think tank américain, Pew Research Center, relayée par de très nombreux quotidiens, menée entre le mois de février et le 8 mai dernier. Ce sondage réalisé auprès de 40 000 personnes dans 37 pays livre un constat sans appel. 74% des personnes interrogées déclarent ne pas faire confiance à Donald Trump contre 23% sous Barack Obama. Jamais un président américain n'avait été aussi impopulaire. Les raisons de ce désaveu sont à rechercher à la fois dans la personnalité de Trump, mais aussi dans sa politique étrangère. Les seuls pays où le locataire de la Maison-Blanche reste populaire sont naturellement la Russie et Israël, où il recueille respectivement 53 et 56% d'avis favorables.
Et puis, autre sujet à la une de la presse ce matin, Thomas, une vaste cyberattaque mondiale.
Oui, une vague massive de cyberattaques s'est répandue hier à plusieurs multinationales, européennes, américaines, après avoir frappé des entreprises majeures et des structures gouvernementales en Ukraine et en Russie. Ces deux pays ont été en réalité les plus touchés, en particulier, précise ce matin Le Temps, le site du gouvernement ukrainien a été bloqué, tout comme celui de la centrale de Tchernobyl. À Kiev, les usagers du métro se sont retrouvés dans l'incapacité d'acheter des tickets par carte bancaire, tandis qu'à l'aéroport, la plupart des panneaux d'affichage se sont subitement éteints. Les autorités ont aussitôt soupçonné la Russie, sauf que son voisin a lui aussi été directement frappé. La banque centrale russe, notamment, a fait état d'établissements financiers infectés, de même que Rosneft, l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde, qui indiquait qu'un serveur de secours avait dû être mobilisé pour ne pas interrompre la production.
Et puis le sauvetage dimanche en Italie de deux banques publiques en faillite continue d'alimenter les commentaires dans la presse.
Oui, le gouvernement italien a débloqué 17 milliards d'euros de fonds publics. La Commission européenne a donné son feu vert, faisant valoir que les créanciers participeront au coût. Mais pour nombre d'éditorialistes, le fait que ce soit toujours les contribuables qui sauvent les banques en difficulté prouve que l'union bancaire ne fonctionne pas. Ces aides ont un goût amer. Peste notamment Der Standard, car l'UE avait fait croire aux citoyens que les établissements financiers en difficulté ne seraient plus renfloués par le biais de fonds publics. Le filet de secours tissé à cet effet semblait être prêt. Il incombait d'abord aux actionnaires et aux créanciers de mettre la main à la poche. En d'autres termes, poursuit El País, ce n'était plus aux contribuables de sauver les banques en Europe, mais bien aux actionnaires et aux investisseurs. Le risque bancaire était enfin dissocié de la capacité financière de l'État pour celui qui mettait l'établissement bancaire en faillite. Seulement voilà, les différents États, la Commission européenne et le mécanisme de surveillance unique ne cessent en réalité de trouver des arguments afin de justifier pourquoi dans chaque nouveau cas, le nouveau règlement ne saurait s'appliquer. sans compter, relève à nouveau El País, que les toutes nouvelles règles européennes font aux de toutes parts dans le pays même de Mario Draghi, c'est-à-dire le président de la Banque Centrale Européenne.
Enfin, Europe toujours, Thomas Cluzel, la Commission européenne a infligé hier une amende historique de 2,42 milliards d'euros à Google.
Oui, selon la commissaire chargée de la concurrence, Google aurait abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne afin de favoriser son comparateur de prix. Alors évidemment, une telle décision défavorable à une entreprise américaine pourrait encore accentuer les tensions entre Bruxelles et Washington. Le The Washington Post rappelle notamment que la commission avait déjà estimé qu'Apple avait bénéficié en Irlande d'aides d'État illégales. Quoi qu'il en soit, Google a maintenant 90 jours pour rectifier le tir, sans quoi il sera soumis à des astreintes pouvant atteindre 5% du chiffre d'affaires moyen réalisé quotidiennement au niveau mondial.